Je propose que nous lisions une parole dans 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est ce que nous voulons voir ce matin, et nous voulons nous incliner d'abord dans la prière. Ô notre Dieu, nous te remercions parce que dans ce monde, tu as donné une maison de Dieu, un lieu béni dans lequel se retrouvent tes enfants, tes rachetés. Et dans cette maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, tu veux nous apprendre comment nous devons nous conduire. Et nous te demandons cette lumière. Nous savons déjà beaucoup de choses, Seigneur. Et pourtant, nous nous rendons compte que parfois, notre comportement n'a pas été ce qu'il aurait dû être, et que beaucoup de tes enfants ne se comportent pas toujours comme ils le devraient et comme tu le voudrais. C'est pourquoi nous te demandons d'éclairer notre chemin, d'éclairer notre vie et de nous donner de pouvoir être, de pouvoir devenir des modèles dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Dans l'éthique du Nouveau Testament de Wendland, qui est là, qui est un ouvrage écrit par un théologien luthérien, je crois, où tout n'est pas, à mon avis, toujours conforme à la notion que nous avons, aux notions que nous avons, qui nous sont chères, fondées sur la parole de Dieu, mais où il y a quand même des choses très vraies, très importantes qui sont dites. Je relève une phrase, la communauté, donc l'Église, se tient en face du monde comme une réalité sociale et éthique autonome. Et elle doit se distancer par son comportement des péchés de ce monde caduque. Je trouve que c'est une définition, c'est une parole qui mérite d'être retenue. Il parle également du caractère anti-monde de la communauté qui constitue un principe fondamental de toute l'éthique de l'apôtre Paul. Le caractère anti-monde de l'Église chrétienne. Je sais bien qu'il faut être prudent. Je sais bien que nous ne devons pas forcément être toujours anti. Peut-être que nous avons un peu cette tendance parfois dans nos milieux évangéliques ou dans certains milieux évangéliques d'être surtout et avant tout anti. Et on nous le reproche quelquefois. Mais il y a l'autre extrême, c'est de s'adapter à tout ce qui se fait, à tous les mouvements religieux autour de nous et à être avec le monde. Et j'ai découvert chez vous qu'il y a ce désir d'une vie équilibrée. Et c'est aussi mon propre désir de ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Mais vous savez que marcher sur une corde raide, c'est pas donné à tout le monde. Et il nous arrive effectivement de pencher d'un côté, de pencher de l'autre. Et de là viennent parfois nos difficultés quand nous avons un frère qui penche un peu plus à droite et que nous-mêmes nous penchons un peu plus à gauche et que nous avons de la peine à nous comprendre tout en étant sur la même corde raide. Vous allez me dire, mais sur la corde raide, on ne peut guère pencher ni à droite ni à gauche, à moins de tomber. Et il arrive aussi que des frères tombent. Mais que Dieu nous donne et nous maintienne, nous, vous et moi, dans cette ligne équilibrée que parfois nous perdons mais que nous devons toujours retrouver pour ne pas nous laisser entraîner soit par les uns, soit par les autres, car je crois que la Bible est équilibrée. Mais je suis d'autant plus étonné et j'apprécie d'autant plus que ce soit un luthérien qui probablement est assez écuménique, qui parle du caractère anti-monde de la communauté chrétienne. S'il le dit, c'est que quand même il essaye de se fonder sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre qu'effectivement, le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Encore une fois, il faudrait définir le terme, mais comme dit hier ou avant-hier, je parle maintenant du monde dans le sens péjoratif, comme le fait souvent l'Écriture, pas toujours, comme le fait l'apôtre Paul en particulier. Nous devons nous laisser sauver du milieu de cette génération perverse et corrompue. Voilà ce qui fut dit dès le début dans les Actes par l'apôtre Pierre. Perverse et corrompu. Perverse, c'est un mot qui pourrait, qui devrait se traduire par tortueux. C'est scoliose. La scoliose, vous savez, c'est la déviation de la colonne vertébrale. Une génération qui est tortueuse. Et Jésus lui-même, notre grand chef et maître, n'a-t-il pas dit que nous ne sommes pas du monde ? Jean 17, verset 14, mais que nous sommes dans le monde. Jean 17, verset 11, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et si dans un sens nous devons en sortir de ce monde, c'est pour y retourner, je dirais, pour y retourner, envoyer dans le monde. Jean 17, 18, comme des enfants de Dieu, irréprochables, dans ce monde dans lequel nous devons briller comme des flambeaux portant sa parole de vie, parole qui n'est pas étrangère à l'action biblique, car je crois que j'ai vu quelque part un flambeau. Philippiens 2, 15. C'est le bateau dans la mer du monde, pourvu que ce ne soit pas la mer dans le bateau. C'est pas la même chose. Voyez ce qui arrive. Cool. Alors, l'Église chrétienne, quand je dis Église maintenant, je mettrai un grand « et », n'est-ce pas ? Quoique la notion de l'Église locale est très développée chez vous, chez nous. D'ailleurs, sur 90 versets bibliques qui parlent de l'Église, je crois que 80 peut-être se rapportent ou davantage au corps local et que quelques versets peuvent trouver une application plus générale, plus universelle. L'Église dans le monde est aussi un ordre éthique, si vous voulez, si vous permettez l'expression, un ordre éthique. Ce n'est pas le regroupement fortuit de personnes vivant à leur convenance. C'est quelque chose qui est organisé par Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Tout doit se faire avec bienséance et ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3 à 5. Alors quand on parle d'ordre, on est obligé de reconnaître, d'admettre qu'il doit y avoir des responsables de l'ordre. Et vous savez que dès les Actes des Apôtres, 14, 23, il y a eu des anciens qui ont été désignés dans telle église primitive. Vous savez aussi que l'apôtre Paul, en écrivant à Tite, avait dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler » et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tite 1, 5. Vous voyez donc que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait un ordre établi, même si la formule n'est pas toujours aujourd'hui bien reçue partout. On n'aime pas tellement l'ordre établi. Mais nous verrons que cet ordre établi n'est pas du tout un ordre comme on l'entend parfois dans le monde ou dans les partis politiques. Il y a dans l'Église chrétienne des évêques. Je ne veux pas faire l'historique et non plus donner une étude sur l'Église chrétienne d'après les Écritures, mais je suis obligé, en parlant de l'éthique dans l'éthique ecclésiale, de faire allusion quand même à l'ordre établi par Dieu et d'employer le terme d'évêque ou ancien, synonyme d'ailleurs, établi par le Saint-Esprit sur le troupeau pour le paître. Dans Actes 20, 28 à 30, il est parlé des évêques. Et ce qu'on appelle évêques sont également dans le même chapitre appelés anciens. Voilà pourquoi nous sommes d'accord, je pense tous, que anciens et évêques sont synonymes. Ces anciens doivent être des hommes fidèles, capables d'enseigner la vérité. Il y a des qualifications morales et intellectuelles, des conditions familiales. Je cite 2 Timothée 2, 2, 1 Timothée 3, 1 à 7, sur les conditions familiales. Il n'y a pas que les anciens, il y a les diacres également. Et hier, un de nos frères m'a rappelé que quand il y eut un problème dans Actes au chapitre 6e concernant le service des tables, eh bien, devant ce besoin, on a choisi des diacres. Diacre veut dire serviteur, ce n'est pas du tout un titre particulier. C'est simplement des serviteurs qui sont venus renforcer le groupe des responsables qui, lui, devait davantage s'occuper de la prière et de la parole de Dieu, tandis que les diacres devaient plutôt s'occuper de choses matérielles, ce qui n'est pas tout à fait juste non plus du fait que certains d'entre eux sont devenus d'éloquents prédicateurs et témoins, tels que Étienne qui fut lapidé. Ces anciens dirigent donc le troupeau, c'est leur devoir de le diriger. Ils dirigeaient 1 Timothée 5, 17. Ils sont conducteurs, Hébreux 13, 7. Il va veiller sur le troupeau. C'est pour ça qu'on les appelle les surveillants. Épiscopos, d'où vient le titre de épiscopat en français. Épiscopos veut dire quelqu'un qui regarde, qui regarde autour. Épiscopos qui regarde, quelqu'un qui surveille. Ils font paître le troupeau, 1 Pierre 5, 2. Ils sont aussi appelés pasteurs, pas souvent, c'est vrai, Éphésiens 4, 11. Ils sont revêtus d'une certaine autorité puisqu'il faut leur obéir, Hébreux 13, 17, et avoir de la déférence pour eux et même les honorer. 1 Timothée 5, 17. Et dans l'épître aux Hébreux, texte que je viens déjà de citer, dans Hébreux 13, 17, il est dit qu'il faut tout faire pour qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en gémissant. Je ne sais pas si il vous arrive de gémir. D'après ce que nous avons entendu hier soir dans notre échange, je crois qu'il y a lieu parfois de gémir. Et j'étais très édifié d'une part de voir la liberté avec laquelle vous avez exprimer vos pensées, présenter vos problèmes. Je crois que ce sont des moments bénis que nous passons ensemble, du fait qu'il y a cette liberté qui permet à chacun de venir avec même son fardeau particulier et de le partager. Et je crois que tout poids partagé diminue. C'est évident, quand nous avons un grand paquet à porter qui pèse 100 kilos et que je ne puis pas le porter seul, si trois frères viennent m'aider, ça ne fera plus que 25 kilos par tête, si je ne me trompe dans mon calcul. Et c'est vrai spirituellement. Et je crois l'isolement des pasteurs, des responsables, est un grave problème dans certains lieux, dans certaines localités. Ceux qui ont le privilège d'avoir à proximité des frères avec lesquels ils peuvent communier, avec lesquels ils peuvent partager leurs problèmes, sont avantagés. Et ceux qui ont un conseil d'anciens, ceux qui ont cette collégialité, comme on l'appelle jusqu'à Rome, je parle maintenant pas de notre frère à Rome, mais je parle du Vatican, puisque là-bas aussi on parle de collégialité, même si elle n'est pas toujours réalisée, l'est-elle toujours chez nous? Mais quel privilège de pouvoir porter certains points. Je l'ai dit hier à un frère, à propos de ce que je vous ai raconté l'autre soir, concernant certains problèmes éthiques, combien il est bon de pouvoir partager avec d'autres frères responsables tel fardeau, et de pouvoir faire une démarche au nom du Collège des Anciens, pour que, si même il y avait une erreur faite, cette erreur ne retombe pas sur vous, sur moi, mais qu'elle soit partagée par ceux qui ont prié, qui ont réfléchi et qui ont décidé. Les anciens sont là pour enseigner. Et l'enseignement est de la plus haute importance de nos jours, comme de tout temps d'ailleurs. Quand l'enseignement est donné fidèlement, il est extrêmement important, car il peut prévenir beaucoup de problèmes. Et je crois que beaucoup de nos problèmes viennent du fait que peut-être l'enseignement n'a pas été comme il aurait dû être parfois, que les chrétiens n'ont pas été formés, et que devant certains péchés ou certains pièges que leur tendait l'ennemi, ils n'ont pas su être vigilants et ils n'ont pas eu le discernement qu'il aurait fallu avoir. L'enseignement est la meilleure prophylaxie. Pour autant, bien entendu, qu'il soit reçu et mis en pratique. Parce qu'il me semble aussi avoir entendu hier que, quelquefois, nous enseignons et les gens font quand même le contraire. En tout cas, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui m'arrive aussi. D'avoir dit quelque chose clairement et d'avoir même été approuvé par ceux qui l'ont entendu et d'avoir dû constater par après que cela n'a pas été fait, mais que le contraire a été fait. Donc je dis, il faut que l'enseignement soit donné fidèlement, mais il faut qu'il soit reçu. Et il faut surtout qu'il soit mis en pratique. Car que servirait-il, que nous servirait-il, si nous arrivions à définir clairement certaines attitudes éthiques à adopter dans nos communautés, comme nous l'avons vu hier soir en parlant sur certains problèmes, même polygamie ou autre, par rapport à l'Afrique. Que servirait-il d'émettre des choses très claires, des vérités très claires, et de ne pas les mettre, ou de ne pas pouvoir les mettre en pratique? Parce que peut-être nous ne serions pas soutenus par d'autres responsables. Paul, l'apôtre Paul, nous montre que l'ordre, je n'ai pas le plan devant moi, mais je pense qu'il y a l'ordre menacé, ce serait le prochain point. Paul savait que des loups cruels s'introduiraient parmi les chrétiens et qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Et ça, c'est tout au début, l'Église primitive. Dont nous nous imaginons parfois que tout était formidable, avec tous les miracles, avec les apôtres encore vivants. Nous soupirons quelquefois, nous voudrions pouvoir revivre ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, et nous oublions qu'il y avait déjà pas mal de problèmes à Corinthe, et à Jérusalem, et ailleurs, et partout, et que Paul prévoyait, quand il parlait aux anciens d'Éphèse, acte 20, que des loups cruels s'introduiraient parmi eux et n'épargneront pas le troupeau. Des hommes s'élèveront du milieu d'eux pour enseigner des choses pernicieuses. Et cela est devenu réalité. Et cela restera réalité, malheureusement, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur. Car nous n'avons pas de promesse biblique qui nous dirait que vers la fin, les choses iront mieux. Bien au contraire, malheureusement. Nous ne voulons pas faire jouer au prophète et ne rapporter que le mal qui va se produire, mais nous sommes obligés d'être honnêtes devant la parole de Dieu. Et d'ailleurs, si nous ne l'étions pas, le monde et la réalité même vécue dans nos communautés souvent nous montrerait bien ce qu'il en est de ces choses. L'immoralité, nous en avons parlé, mais nous en avons parlé sur un autre plan. Dans l'Église même, malheureusement, il y a eu, il y a et il y en aura encore de l'immoralité. Nous avons évoqué le problème du concubinat. C'est un sujet que j'aurais plutôt traité sous l'éthique familiale, donc un sujet que nous ne traitons pas maintenant. Mais c'est un sujet qui touche aussi la vie de l'Église, ses relations sexuelles hors mariage. L'apôtre Paul parlait de ceux qui s'étaient glissés parmi vous et qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Parole déjà citée hier. Et puis il énumère dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, ce chapitre bien affligeant, d'une part, où il parle de débauche telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est incroyable que les chrétiens pratiquaient une impudicité, une débauche pire que celle que l'on rencontrait chez les païens. Des frères, oh je mettrai des guillemets, des frères débauchés, cupides, idolâtres, outrageux, ivrognes, ravisseurs. 1 Corinthiens 5, 11. De faux frères, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. De Timothée 3, 5. Des chrétiens qui auraient des paroles grossières, qui tiendraient des propos insensés ou équivoques, chose contraire à la bienséance. Éphésiens 5. Voilà des réalités bibliques de ce temps déjà. Je dirais, en deuxième lieu, par rapport à l'ordre menacé, si le premier point était l'immoralité, je dirais maintenant, il y a le mépris de certains, de certaines règles de tenue ou de comportement. Sans parler de l'immoralité, mais dans d'autres domaines, il y a le mépris des ordonnances bibliques. Souvenez-vous du repas du Seigneur qui était devenu à Corinthe l'occasion de faire ripaille en humiliant les pauvres. L'un a faim, l'autre est ivre. 1 Corinthiens 11, 21, 22. Je dirais, c'est impensable, même aujourd'hui. Avez-vous déjà eu des gens qui sont venus à la Sainte-Seine en étant ivres? Eh bien, les Corinthiens ont connu ça. Méprisez-vous l'Église de Dieu? La discrimination raciale ou autre, c'est un sujet à part dans l'éthique que je ne voudrais pas traiter maintenant, mais dans Jacques 2, 2, 4, il est parlé d'un homme qui entre avec un anneau d'or, bien habillé, et puis un pauvre misérablement vêtu qui est là. Et le premier, l'homme riche, on lui dit, viens là, devant, place d'honneur. Et à l'autre, on dit, tiens-toi debout là-bas. Ça, c'est dans la Bible. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas en Afrique du Sud. C'était parmi les chrétiens vivants des premiers temps. Vivants. Je ne sais pas s'il faut dire vivants. L'apôtre Paul, nous l'avons dit, va loin parfois dans les choses matérielles, ce que certains ont de la peine à admettre. Car il parle de vêtements, il parle de bijoux. J'ai dit hier à un frère par rapport à des amis, à une œuvre chrétienne, séminaire chrétien au Canada, que quand ses frères viennent chez nous et qu'ils voient un des nôtres boire un verre de vin, ils sont choqués. Je ne dis pas que vous devez boire du vin, il n'y en a point d'ailleurs ici. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle chez vous, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'action biblique, je pense qu'il vous est permis de boire un verre de vin. Pas, je ne me trompe pas, je ne voudrais pas vous scandaliser. C'est même compliqué. Ah oui. J'allais dire, est-ce que l'action biblique de Genève envoie à chaque serviteur une douzaine de bouteilles de vin pour Nouvel An? Pas encore. Bon. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Je suis plus indépendant que vous. Mais par contre, quand nous allons là-bas, je dis nous, je n'y ai jamais été, mais je connais des frères qui ont été. Ils sont surpris quand ils viennent dans ces cultes de voir que les dames ont de grandes boucles d'oreilles, de grands colliers en or, et puis que ce que j'appelle moi de la quincaillerie un peu partout. Et quand on fait une remarque, il vaut mieux ne pas la faire d'ailleurs, mais on vous dira, mais ça fait partie, même les lèvres rouges et tout, ça fait partie de la toilette. On est propre, on est soigné, quand on a des lèvres rouges, quand on a peut-être même du bleu sur les paupières, je ne sais pas, ça fait partie de la toilette. Et nos femmes ne sont pas soignées. Quand les Américains ou les Canadiens viennent ici, ils doivent penser que nos femmes ne se soignent pas. Voilà des mentalités différentes. Et pourtant, il y a la même Bible, la même parole de Dieu. Et des gens qui ont le même fondement, je m'efforce de le dire, au point de vue doctrinal, ils seraient d'accord avec tout ce que vous croyez et tout ce que je crois. Mais Paul va jusqu'à parler de vêtements, de bijoux, de choses extérieures dont nous dirons facilement, mais c'est tout à fait secondaire, c'est le cœur qui compte. Et c'est vrai que, comme on nous dit quelquefois, Dieu regarde au cœur. Mais les hommes regardent à l'extérieur, ils ne voient pas le cœur. Moi, je n'ai pas une vitrine là pour que les gens voient, et même s'il y avait une vitrine, que verraient-ils? Alors, les gens regardent aux choses extérieures et ils sont choqués. Et c'est vrai que dans une certaine manière, je dirais, l'extérieur est quand même le reflet de l'intérieur. Mais je ne veux pas dire par là que les femmes qui ont de grands chignons et qui n'ont pas d'ornements, pas de bijoux, sont forcément plus saintes que celles qui portent un pantalon, ou qui même mettent du bleu sur les paupières, ou de n'importe quelle autre couleur. Il faut, je crois, que nous soyons prudents et que nous ne jugions pas les gens sur l'extérieur, parce que certains ne savent même pas ce qu'ils font. On dit quelquefois que les femmes, les filles de nos jours sont provocantes dans leur façon de s'habiller. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que du point de vue de certains qui n'avaient pas l'habitude de voir cela, mais je suis convaincu qu'il y a des filles qui s'habillent de façon provocante sans en être conscientes, qu'elles ne veulent pas forcément provoquer. Mais c'est la mode, tout le monde fait comme ça. Et ça choque certains, et d'autres ça ne les touche pas du tout. Donc ne devenons pas légalistes, soyons prudents. Mais quand même, ayons l'extérieur qui convient à la sainteté, Tite 2:3. Déjà cité hier, par rapport aux vieilles dames. Mais moi, je l'applique volontiers également aux jeunes dames et à moi-même. Un extérieur qui convient. Mais alors, on me dira, oui, mais qu'est-ce qui convient? Qui va nous dire ce qui convient? Est-ce qu'une cravate est quelque chose qui convient à la sainteté? Ou est-ce qu'une non-cravate, j'aurais presque dit, le fait de ne point en porter est mieux? Je vous avouerai que j'ai apporté une cravate. Car je me suis dit, si peut-être ces frères ont l'habitude, dans des séminaires sérieux, de mettre une cravate, ou tout au moins les responsables, comme Jean-Pierre Gaulet, n'est-ce pas? Pour faire remarquer le...
J'ai aussi fait une cravate.
Moi, j'ai pas. Mais dans le sens...
Alors je me suis dit, tu regarderas d'abord comment font les autres, voyez. Non pas que je suis soumis, que je voudrais me soumettre à la mode ou faire comme tout le monde, mais je me dis, comme on a dit hier soir, si tu es africain et que tu viens à Rome, eh bien, essaie de te conformer un peu à la manière de vie de ces gens-là, ne pas choquer ces gens. Et si tu es vaudois, genevois, bernois, et que tu vas au Zaïre, à Kinshasa, eh bien, ne fais pas des choses qui vont les choquer. Bien, de toute façon, on les choquera un petit peu parce qu'on est blanc, ils sont noirs. Et parce qu'on ne veut quand même pas forcément s'habiller comme eux s'habillent. Mais je crois qu'il est fraternel, et ça fait partie de l'amour, de ne pas vouloir à tout prix faire autrement que les autres, et puis de ne pas vouloir non plus à tout prix faire comme tout le monde. Là encore, il y a un équilibre que j'essaye de trouver, de rechercher, et je ne trouve pas toujours. Je peux me tromper, je peux faire une gaffe, mais Dieu sait qu'au fond de moi-même, je voudrais être avec d'autres et le moins possible les choquer. Bien sûr, la parure intérieure importe avant tout, et Pierre l'a dit, et surtout ils l'ont dit aux femmes, peut-être que ces femmes sont particulièrement en danger, entre guillemets. Parure intérieure, esprit doux et paisible, plutôt qu'ornement d'or, cheveux tressés. Paul dira, ni or, ni perles, ni habits somptueux. 1 Pierre 3, 1 Timothée 2, 9. Voyez que dans l'Église même, dans la vie, dans les réunions, dans les contacts fraternels, il y a une éthique. Il faut la rechercher. Il y a une éthique biblique, il y a des choses qui choquaient du temps de Paul et qui choquent encore aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres choses, comme dit dans le premier soir que nous nous sommes retrouvés, découvrir ce qui a une valeur permanente, ce qui est toujours valable maintenant, et ce qui n'était valable que pour un temps limité. C'est pas toujours facile, je dirais. Mais Dieu regarde au cœur, il connaît nos intentions. Afin que, dit même l'apôtre Pierre, par rapport aux femmes, mais c'est valable par rapport aux hommes également, afin que quelques-uns soient gagnés sans parole même, par la conduite, je pourrais mettre par l'éthique de leurs femmes. 1 Pierre 3, 1. Ces femmes qui font profession de servir Dieu, dit Paul à Timothée, 1 Timothée 2, 10. Les femmes qui font profession de servir Dieu. Nous sommes pour que la femme puisse servir Dieu. Mais la parole nous dit que la femme ne doit pas enseigner dans l'Église. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord. 1 Timothée 2, 12. Mais je connais des frères qui ne sont pas d'accord avec moi et qui diraient, mais tout a évolué maintenant, la femme étudie, la femme gagne, la femme est l'équivalent de l'homme, elle n'est pas moins intelligente que l'homme, elle l'est quelquefois davantage. Et il y a des hommes qui ont des femmes qui sont plus capables, plus intelligents que leur époux. Mais la parole est claire, me semble-t-il. La femme, nous diront certains, est un être humain à part entière, m'a-t-on dit. Mais je ne l'ai jamais nié. Vous non plus, je pense. Elle est un être à part entière. Ah, c'est encore une formule chère au monde actuel, à part entière, un citoyen à part entière. Mais un enfant, un adolescent, un vieillard, un manœuvre, un professeur, un chirurgien ou un balayeur de rue sont pour moi des êtres à part entière. Mais n'empêche, un enfant n'est pas un vieillard et un balayeur de rue n'est pas un chirurgien. En tout cas, je ne voudrais pas me faire opérer par un balayeur de rue. Mais tous ces êtres-là, humains, sont des êtres à part entière, mais ils ne sont pas pour autant permutables ou interchangeables, comme on voudrait que le soit femme et homme de nos jours. Oh, il y a d'autres sujets plus délicats, sur lesquels peut-être, si j'allais un peu plus loin, on ne serait peut-être pas toujours d'accord même entre nous. Je veux quand même évoquer un problème, on pourra en discuter si vous le voulez. Quand il est dit que la femme doit se voiler la tête quand elle prie, et quand je vois qu'en certains milieux évangéliques que cela se pratique encore, et quand je vois que quelquefois on se moque de certaines femmes qui, même quand elles sont chez elles, mettent un mouchoir sur la tête pour se conformer à la parole de l'Écriture. Je crois que, là encore, il faut réfléchir. Est-ce une coutume de l'époque qui n'a plus rien à faire aujourd'hui? Est-ce que parce que les femmes prostituées avaient la tête non couverte et les cheveux coupés, que Paul a dit, il faut que les femmes chrétiennes aient de longs cheveux et en plus encore un voile sur la tête. C'est ce qu'on dit quelquefois. C'est l'interprétation qu'on donne. Alors que l'homme, lui, doit garder sa tête découverte. 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Mais ne seriez-vous pas choqués le dimanche matin? Et nos femmes ne seraient-elles pas choquées si vous mettiez un chapeau pendant que vous priez et que vous prêchez? Moi, je crois. Moi, je dirais, mais c'est drôle, hein, dans cette communauté, les femmes n'ont rien sur la tête et tous les hommes ont un béret, une casquette ou un chapeau. Ça vous paraît très bizarre, hein? Comment? Les Juifs, oui. Alors, à l'époque de Paul, justement, les Juifs devaient couvrir la tête, encore aujourd'hui. Et les femmes ne couvraient pas la tête. Tandis que les femmes grecques couvraient la tête. Il n'y a pas la même pratique chez les Juifs et chez les Grecs. Or, Paul vit dans un contexte à la fois juif, parfois grec, selon qu'il était à Athènes, à Corinthe, ou à Jérusalem, ou ailleurs. Et ce que Paul a dit, parce que c'est une coutume, parce que ça pourrait faire, on pourrait croire que c'est une femme de mauvaise vie, l'apôtre Paul, on en a parlé ces jours-ci, de ces des ordres créationnels. L'apôtre Paul, vous le savez, parle de Dieu qui est le chef de l'homme qui est le chef de la femme, ou Dieu qui est le chef de Jésus-Christ, voulant encore faire intervenir un autre chaînon, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et c'est pourquoi, dit-il, que la femme doit porter une marque sur la tête de l'autorité dont elle dépend. Il remonte au Créateur, à la création, à l'état originel. Alors, voyez-vous, je ne veux pas ouvrir un débat, mais simplement, je réfléchis moi-même, et pour vous rassurer, je vous dirai que chez nous, la plupart des femmes n'ont pas la tête couverte. Alors ne pensez pas que je suis quelqu'un qui est à cheval sur une pratique. Mais je vous avoue que pour moi, c'est encore un problème non réglé sur le plan pratique. Et que si j'avais à créer une communauté nouvelle, ce qui n'entre pas en ligne de compte, je crois que je dirais aux femmes, quand vous priez, s'il vous plaît, couvrez vos têtes. Les seules femmes qui couvrent les têtes chez nous, savez-vous lesquelles? Ce sont les dames âgées. Parce qu'ils n'ont plus de cheveux. C'est pas beau, hein? Alors elles mettent un chapeau. Alors celles qui ont une perruque ne mettent pas de chapeau. Voilà. Alors, juste pour réfléchir, j'admets qu'on peut avoir une autre vue là-dessus. Je ne suis pas du tout à cheval. Mais je crois que c'est l'éthique, ça fait partie, me semble-t-il, de l'éthique. Mais il y a des choses plus importantes, nous dira-t-on, et je suis tout à fait d'accord. On pourrait ajouter l'hospitalité, la libéralité, et tout ce qu'on doit faire pour les veuves, pour les orphelins, pour les vieillards, qui font tout ça fait partie de l'éthique dans l'Église. Ce qui convient, ce qui est honnête, ce qui est juste. Et permettez-moi aussi d'aborder un troisième point, il y a l'erreur, les hérésies. Vous allez dire, mais ça, c'est pas l'éthique. Mais pourquoi pas? Vous savez qu'il y a un aspect moral et éthique dans l'hérésie. Il suffirait de nous souvenir de tous les mouvements sectaires qui se multiplient autour de nous, les enfants de Dieu et Moon et autres. Toutes les exigences morales. Et pour certains, comme les enfants de Dieu, je dirais presque des exigences immorales, qui montrent bien que, malheureusement, la parole de Dieu, la Bible, la religion, comportent pour certains aussi des déviations morales. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles, il est enflé d'orgueil. L'orgueil est aussi une question d'éthique. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, les vaines discussions, l'évangile est une source de gain, ceux qui veulent s'enrichir, l'amour de l'argent. Qui vous a arrêté? pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, Galates 5, 8. Et Paul parle des faux Christ et faux prophètes, Matthieu 24, 24, 1 Jean 4, 1, des faux frères, Galates 2, 4. Et il y a d'autres égarements, un autre point, à caractère moral, ceux qui ont, ceux dont les intentions ne sont pas pures, ou les motifs ne sont pas moralement purs, animés dans l'esprit de dispute, dans la pensée de susciter des tribulations à d'autres, c'était le cas de Paul, Philippiens 1, 17, on voulait lui faire du mal. Il y a l'orgueil d'un Diotrèphe qui aimait être le premier. Ces méchants propos qu'il a tenus, ces mauvais actes que Jean rappelle dans 3 Jean 9, des Diotrèphes, il y en a encore aujourd'hui, des hommes autoritaires qui veulent tout diriger, tout commander. Il y a la jalousie, dispute, division, manque de franchise, calomnie, mensonge, susceptibilité, etc. Tout cela dénote un manque de spiritualité. Je crois que tous nos problèmes, la plupart de nos problèmes, viennent d'un manque de spiritualité. Un manque de sagesse, un manque de connaissance de la volonté de Dieu qui nous empêche de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être agréable, entièrement agréable, Colossiens 1, 9. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, dira Jacques, chapitre 4, 1 à 3. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Et ça bloque la vie spirituelle. Les prières ne sont plus efficaces. Il y a de l'adultère spirituel. Il y a le mépris de l'écriture, il y a l'orgueil. Alors comment remédier à tout cela? C'est là le plus important, je crois, maintenant. La discipline. Voilà le grand mot lâcher, un mot qu'on n'aime pas, une pratique que nous avons souvent oubliée, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais souvent on essaie d'être arrangeant par amour. Pour moi, dit Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, 1 Corinthiens 5, 3, le cas de l'inceste. Corinthiens n'ont pas n'ont que trop tardé à intervenir dans ce cas de délit flagrant. Et la prophylaxie dont je parlais tout à l'heure, l'enseignement biblique fidèle, n'a pas porté des fruits, semble-t-il. Alors, bien entendu, il faut exhorter, il faut avertir, c'est la thérapeutique, si vous voulez. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. 1 Thessaloniciens 5, 14, 2 Thessaloniciens 3, 11. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Est-ce que nous le pratiquons? Oui, peut-être, je ne sais pas. Quelquefois. Ce n'est pas agréable d'aller trouver un frère et de le reprendre, de dire tu as mal agi, de le faire avec amour, de le faire dans la vérité, évidemment. Et s'il n'écoute pas, eh bien, tu dois prendre deux ou trois témoins et refaire la même démarche. Et s'il n'écoute pas, tu dois le dire à l'Église. C'est une démarche biblique. Voilà donc une procédure biblique à respecter. Et ça va même plus loin si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Avant, il était dit, si ton frère a quelque chose contre toi, ou si ton frère a péché plutôt, simplement, va et reprends-le. Et maintenant, Jésus va plus loin. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, va le trouver. Laisse ton offrande. Ça veut dire, je pense, si je comprends bien, ne va pas d'abord prier, adorer Dieu, chanter des cantiques, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. De Timothée 4:2, Paul dit aussi à Timothée, reprends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Reprends, reprends devant tous même, dans certains cas, peut-être par rapport aux anciens, quand un ancien a péché. Ça arrive. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Reprends avec une pleine autorité. Tite 2:15. La cure d'âme. Ah, une expression qui a vieilli. On n'aime plus ça. Ça fait tellement vieillot. La cure, pensez donc. La cure. Alors on dit maintenant ministère d'aide. Ou de réconciliation. Est-ce que c'est mieux? Peut-être pour les jeunes qui que la formule change. Moi, ça ne me gêne pas de changer la formule quand elle est bonne, valable, quand elle dit la même chose, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est spirituel?
Consultation.
Oui, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourvu que ce soit la même chose, hein, et que ce soit compris. On aime les changements. Je lis quelquefois la Bible en français courant. C'est, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est mieux que ce qu'il y a dans second. Et puis quelquefois c'est beaucoup moins bien. Alors je me dis, bon, on peut citer, on peut relever certaines choses, mais quand on emploie un autre mot, et que le mot nouveau est mieux compris, mais qu'il ne dit plus ce que disait l'ancien mot, alors j'aime mieux garder l'ancien mot, quitte à donner un petit commentaire. Confessez vos péchés les uns aux autres, Jacques 5:16. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ nous a pardonné. Supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3:13. Pardonnez et consolez afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. 2 Corinthiens 2:7. Voilà ce qu'il faut faire. Je résume, c'est rapide bien entendu. Mais l'heure tourne et nous arrivons bientôt à la fin. Il y a un point important maintenant, le retranchement. Je dois en parler. Ça fait partie de l'éthique. J'aurais presque dit de l'esthétique. Quelquefois, il faut couper, il faut opérer. Quand toutes les interventions sont restées sans effet, quand il n'y a eu ni repentance, ni reconnaissance du mal, ni réparation du mal, et quand on se prive volontairement de la grâce de Dieu, et qu'une racine d'amertume risque de pousser des rejetons et de produire du trouble et d'infecter les autres, c'est pas moi qui dis ça, c'est Hébreux 12, verset 15. Alors le méchant doit être ôté. 1 Corinthiens 5:2 et 13. Il doit être ôté, c'est dur de couper. C'est dur d'arracher un bras ou d'arracher un œil. Jésus l'a dit pourtant, et je ne crois pas qu'il voulait là parler littéralement. Mais il voulait dire qu'il faut enlever le mal, quand on ne peut pas le guérir, il faut l'enlever. C'est logique. Dans la chirurgie, il n'y a pas de problème. On ne discute même pas. Il faut l'enlever. Quand il y a la gangrène à une jambe, il faut la couper. On ne discute pas. Mais dans l'Église, on discute. Il est dit qu'il faut considérer celui qui est ôté comme un païen. C'est-à-dire comme un profane. C'est-à-dire comme quelqu'un qu'on doit envoyer promener, qu'on doit haïr. Le païen, c'est quelqu'un qu'on doit aimer. Quelqu'un auquel on doit prêcher l'évangile. Ou dans le cas de quelqu'un qui est rétrograde, qui est tombé, auquel on doit dire qu'il peut revenir à Dieu en se repentant. On comprend mal quelquefois la parole, on l'interprète mal. Le païen, c'est celui que l'on doit évangéliser. Et le frère tombé, c'est celui que l'on doit essayer de ramener. Mais on doit s'éloigner de l'hérétique, ou l'éloigner après un premier et un deuxième avertissement. Tite 3:10. Est-ce que ça se fait encore de nos jours? On dirait qu'il n'y a plus d'hérétique. On dirait qu'il n'y a plus de faux prophètes, qu'il n'y a plus de faux docteurs, et pourtant, il y en a encore. Mais parce qu'on collabore avec eux dans les milieux évangéliques souvent, je ne parle pas de vous. Mais C'est vrai que les milieux évangéliques de nos jours, en tout cas dans nos régions, peut-être c'est pas vrai en Italie, peut-être c'est pas vrai en Turquie, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, c'est vrai que des évangéliques collaborent avec des églises qui, dans lesquelles il y a de faux enseignements doctrinaux, ou dans lesquelles il n'y a plus de doctrine reconnue. L'Église nationale du canton de Berne, dans lequel nous sommes actuellement, n'a pas de confession de foi obligatoire. C'est-à-dire que chacun peut croire ce qu'il veut, ou peut ne rien croire du tout, tout en demeurant membre. Pouvons-nous, dans ces conditions, collaborer avec de tels mouvements? Nous pouvons nous unir dans la prière avec les membres convertis de ces milieux. C'est une autre affaire, c'est un autre problème. Nous pouvons reconnaître que même un catholique, pratiquant ou non pratiquant, peut être sauvé s'il a reconnu en Jésus-Christ son sauveur mort sur la croix, même s'il continue à pratiquer des choses que nous ne trouvons pas dans l'Écriture, car Dieu peut l'éclairer. Mais nous devons nous éloigner de l'hérétique, après l'avoir averti. Nous ne devons pas avoir de relation avec ceux qui se disent frères et qui vivent dans l'inconduite et le désordre. 1 Corinthiens 5, toujours. Qui se disent frères. Oh, pas avec tous ceux qui vivent dans l'inconduite. Autrement dit, Paul, il nous faudrait sortir du monde. Alors que justement, Dieu nous y envoie. Nous devons ne pas recevoir celui qui ne prêche pas, qui ne donne pas, qui ne proclame pas la vérité de Jean 1, 10. Nous tenir éloignés de tout frère qui vit dans le désordre. Et Paul lui-même, ne pas avoir de relation avec celui qui n'obéit pas à ce que Paul avait dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens 3, 14. Il faut même le noter. Ça va loin, le noter. Avoir un bout de papier et mettre dessus le nom de celui dont on doit s'éloigner ou qu'on ne doit plus recevoir. Mais malgré ce que je viens de dire, la norme suprême de l'éthique chrétienne, c'est l'amour. Parce qu'on pourrait croire quelquefois que nous sommes durs. Mais nous ne voulons pas être plus durs que nous le fut Jésus-Christ, que nous le furent les apôtres. Et le fondement, je répète, la norme suprême, c'est l'amour. Un amour bien compris, bien entendu. Dieu nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous devons, par-dessus toute chose, nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Mais il nous faut professer la vérité dans l'amour. On a comparé l'amour sans vérité, l'amour sans vérité, à un mollusque, à ces invertébrés mous, dépourvus de squelette. Et on a comparé la vérité sans amour à un squelette ou à une carcasse sans chair. Je ne sais pas ce que vous préférez, le mou ou le dur. Le squelette sans chair ou le mollusque invertébré. L'amour n'est pas de la faiblesse, de la lâcheté, une réaction sentimentale, du mysticisme religieux, engendrant la confusion. Mais l'amour, c'est une force irrésistible qui nous presse, comme dit Paul de Corinthiens 5, 14. Qui nous presse à faire du bien à notre prochain, et tout particulièrement à notre frère dans la foi. Du bien. Encore faut-il maintenant, faudrait-il définir ce qu'est le vrai bien. Car le vrai bien peut être une épreuve pour quelqu'un. Le vrai bien peut être même d'être momentanément retranché, afin qu'il s'humilie, ôté comme celui dont nous parlions tout à l'heure, ôté le méchant du milieu de vous, et puis réintégrer. On n'est pas certain que celui dont parle Paul dans les 2 Corinthiens soit le même personnage, celui qui fut, où Paul dit même maintenant, il faut user plutôt d'amour à son égard, pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Cet amour est une sensibilité aux maux d'autrui, une participation à sa peine à laquelle s'ajoute l'aide que nous sommes en mesure de lui apporter. Et cet amour, il est bien défini dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens. Il est patient, serviable, ni envieux, ni vantard, ni orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal, ou ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit de ce qui est juste, et pas de ce qui est injuste. Il se réjouit de la vérité, pardonne tout, il croit tout. Il ne croit pas le mensonge, attention. Il espère tout, il supporte tout. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons vraiment être en communion dans l'Église, que nous pouvons vraiment vivre cette vie communautaire, que nous pouvons partager, car communion ne veut pas seulement dire être en bonne relation ou en bon terme avec le prochain. Ce n'est pas seulement le partage spirituel, le même mot est employé, ce même mot de communion, koinonia, est employé pour le travail qu'on fait ensemble. L'association, c'est traduit par association dans le travail, dans Galates 2, 9, c'est le même mot. Et le même mot est employé pour la générosité matérielle, pour la contribution matérielle, financière, dans Romains, chapitre 16, verset 26. La vraie communion, elle se pratique à tous les niveaux, dans tous les domaines, entre les chrétiens. Voilà, je termine, vu que l'heure a passé. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce qu'il aurait fallu dire, tout ce qui répond à vos besoins, mais je crois que si nous pouvons mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je n'ai pas dit mon point de vue simplement, je crois que nous vivrons une nouvelle éthique et que ce sera en bénédiction à nous-mêmes et même au-delà de nos limites étroites de nos assemblées. Amen.